Chapitre 11. Le vieil homme dîna ce jour-là d'un bouillon de viande dans lequel nageaient quelques morceaux de pain. Antoinette lui faisait la tête, le servant en maugréant, mais elle n'osa pas le contrarier. Il monta dans sa chambre, marche par marche, sans prendre le risque de s'essouffler, mais n'y fit pas la sieste qu'il était supposé faire. Il resta longtemps devant sa fenêtre, à rêver en regardant le fleuve. Cette Meuse, large et belle, il l'avait vue près de sa source au royaume de France, guère plus large qu'un pipi de chat. Il songeait à ces myriades de gouttes qui se hâtaient vers la mer pour un jour s'en évaporer et retomber quelque part. Peut-être l'une de celles qui ainsi passaient devant lui l'avait-elle jadis arrosée sur un des chemins qu'il avait couru en sa longue vie. Peut-être même en avait-il allongé un gobelet de ces vins d'Espagne qu'on ne peut boire pur tant ils sont capiteux et chargés de poids. Des coups impérieux retentirent à la porte de la rue, le tirant de sa rêverie. Il entendit son voisin Hans annoncer l'arrivée du notaire, qui s'était mis en route avec ses témoins. Il descendit donc dans la cuisine, où il arriva juste à temps pour recevoir l'homme de loi. « Or donc, messire chanoine, vous m'avez fait mander pour recevoir, je crois, vos dernières volontés. » Maître Acarin prononçait, comme curé débitant répond, une formule qu'il avait dû dire mille fois en sa carrière. C'était un homme vêtu de noir, ainsi qu'il sied aux gens de son état, et dont le menton gras fleurissait sur une fraise dont la largeur eût fait pâlir un grand d'Espagne. Il ne se prenait pas précisément pour crotte de bique, et la perspective d'officier pour un homme qui avait jadis fréquenté rois et reines ne paraissait nullement l'émouvoir. Devant prêtre et devant notaire, les hommes sont égaux et ne sont plus grand-chose, se plaisait-il à dire à tout propos, laissant à autrui le soin d'en déduire la hauteur relative de sa propre personne. « En effet, maître Acarin, sourit le vieil homme, j'ai résolu d'embrasser bientôt l'état de découillous, comme on dit joliment, en votre jargon, et j'ai besoin de vos services pour en régler les formalités. » Le notaire ne daigna pas s'en esbaudir, car il avait horreur des gens qui prétendaient empiéter sur son autorité et tenaient le lexique pour l'un des fondements de celle-ci. Il partait du principe que plus les choses du droit resteraient obscures, plus sa position propre s'en trouverait établie et mieux iraient les choses en ce monde. Il condamnait cependant cette opinion chez les médecins qui usaient d'un jargon plus obscur encore, mais dont la situation était toute différente en ce qu'elle touchait à la vie même de leurs clients. « Et vous souhaitez donc, sans doute, messire, rappelez-moi s'il vous plaît votre nom, que je le puisse noter. Dufon. En un mot ou en deux. Comme il vous plaira. Je n'ai à cet égard aucune préférence, dites-moi seulement ce qu'il en est. Leur Majesté d'Espagne usait de deux mots, mais feu mon père, bedeau de son état, n'en a jamais connu qu'un pour le peu qu'il s'en servit. » Le notaire soupira, et on ne sait ce qu'il nota. « Quant au testament, poursuivit le vieil homme, je l'ai rédigé voici 6 semaines, et je vais absolument vous le faire constater. » La mine du tabellion s'allongea, car, outre cet empiétement sur ses compétences, ses honoraires s'en trouveraient réduits. « Vous en avez parfaitement le droit, dit-il cependant, quoique cette façon de procéder ne soit pas la plus courante. Je vous écoute, ainsi que les témoins que j'ai requis à cette fin, qui ont nom Guillaume Gédéon et Jean Goffin. » Les dix témoins saluèrent avec componction. Ils étaient restés dans un coin de la cuisine, roulaient de gros yeux, tripotant de leurs mains épaisses des bonnets qui avaient dû être témoins d'autant de saisons que leur propriétaire l'avait été de testament, et il y avait fort à parier qu'ils auraient été en peine d'attester quoi que ce fût de ce qu'ils venaient d'entendre. « Messieurs, j'irai donc chercher ce papier, si vous le permettez, » dit le maître des lieux. On l'entendit monter l'escalier. Cela dura un certain temps que le voisin servait Anne, se subodorant quelques gênes, s'occupa à meubler. Le brave homme avait le sentiment, fondé sans doute, que le notaire n'était pas au fait des nombreux et grands mérites de son client, et il entreprit d'en dresser l'inventaire. L'autre, cependant, n'en avait cure, s'impatientant à mesure que le temps passait. Antoinette s'inquiéta, monta chercher son frère, et tous deux rentrèrent peu après. Le vieil homme était pâle et haletant. « Nous y sommes, dit-il. Vous voyez mieux ainsi, maître Acarin, pourquoi je vous ai fait mander. » Il déplia soigneusement ce qui était donc son testament. « Avant toute chose, je vous veux dire ce qu'il faudrait qu'il advienne de mon corps. Je veux être enterré sans pompe, cérémonie ni musique d'aucune sorte au cloître du monastère de M. Saint-François devant la petite chapelle. Ah, c'est là terre d'abbaye, et vous n'êtes point de cet ordre. En avez-vous licence? Rassurez-vous, tout ceci a été convenu avec le supérieur de cette maison, qui est un de mes plus vieux amis. C'est que j'ai de longue date avec les frères mineurs, comment dirais-je, quelques complicités qui m'en a rapproché. J'aurai aussi pour dernier costume l'habit de ces religieux, et j'entends qu'ils me portent eux-mêmes en terre comme si j'étais l'un des leurs. Notez que je leur laisse pour ce service la somme de 20 florins, ainsi que la map-monde qui se trouve dans ma chambre. Le notaire avait l'air étonné, mais semblait avoir pris son parti des excentricités de ce client peu ordinaire. Celui-ci crut bon de préciser: Vous n'ignorez pas que l'infante Isabelle ne porta plus d'autre habit que celui-là, à compter du jour où elle perdit son mari, l'archiduc. Elle m'aura donc précédé de bien peu dans l'autre monde. Mais poursuivons. On dira aussi 50 messes pour le repos de mon âme dans les églises de la ville où j'ai prié et musiqué depuis plus d'un demi-siècle. Notre-Dame qui m'est si chère, Saint-Aubin où je fus jadis Duodénus, Saint-Jean aussi, où j'ai fait quelques petites choses avec de bons amis. Je laisse de l'argent pour cela. Ah, j'allais oublier, sourit-il. C'est aussi à Notre-Dame que je donne mon grand tableau des trois rois. Il lança à sa sœur Antoinette un clin d'œil, lui signalant qu'elle serait ainsi débarrassée de cette toile qui lui déplaisait tant, mais elle n'en pleurnicha que davantage. À mon neveu le chanoine, qui est le seul savant de la famille, je laisse tous mes livres. Et comme il est le seul aussi à pouvoir distinguer le sol de luth, c'est lui aussi qui aura mes musiques et mon épinette. Il poursuivit l'énumération, laissant diverses petites choses à chacun de ses parents et argent pour les pauvres. On eût dit un magasinier faisant son inventaire, tant il semblait avoir l'esprit tranquille. Avec le notaire, il était cependant seul en cet état. Tous les autres, et jusqu'aux témoins, avaient la larme à l'œil, tant il est vrai que ce qui est touchant en cette péripétie du trépas, c'est moins de laisser le corps partir en pâture au vert que de voir se disperser ainsi ces objets chers amassés au fil d'une vie. Enfin, à ma bien-aimée Jeanne, qui fit mon bonheur chaque jour où je la vis, je lègue tous mes biens, tant en Espagne que par-deçà. Et qui est, s'il vous plaît, cette Jeanne? Interrogea le notaire, levant le nez. Rassurez-vous, maître Acarin, Jeanne Léonard n'est que ma nièce, fille de ma sœur Antoinette et de son mari Simon, ici présent. Bien, bien. Et vous plaît-il de préciser ainsi ce que sont ces biens que vous lui laissez? Certes, c'est d'abord la maison où nous nous trouvons, que j'ai acheté voici 25 ans par le ministère de votre défunt prédécesseur, Guillaume Ramet, maison d'ailleurs où je suis né, en des temps plus anciens encore. C'est aussi tout ce dont je n'ai pas fait les particuliers, et qui donc, pour défaut, reviendra à Jeanne. Vous ne parliez pas de biens en Espagne? En effet, je n'y ai nul château, mais j'ai encore quelques créances, dont celle de ma pension sur la chevêché de Tolède. Je doute que ma nièce voie un jour la couleur des réaux qu'on m'y doit, mais je veux, pour le bon ordre, en faire mention. C'est votre droit, nota le notaire, à charge, ricana-t-il, d'envoyer votre exécuteur recouvrer cette créance. Terminons donc par celui-ci, puisque vous aurez noté que j'ai désigné pour exécuteur testamentaire mon voisin Servehan, ce que voici. Quoique je ne doute pas un instant de son désintéressement, j'entends lui laisser pour ses soins la petite barque garnie d'argent que vous voyez sur ce meuble. J'ai souvent remarqué que cet objet l'intriguait. C'est peu de choses sans doute, mais c'est une reine qui m'en fit cadeau. Une reine, rien que cela, répéta le notaire avec un sourire sceptique. Une reine, en effet, une reine qui était même à Namur en un temps où vous étiez encore dans les choux, monsieur le notaire. Avec le notaire, il était cependant seul en cet état. Tous les autres, et jusqu'aux témoins, avaient la larme à l'œil, tant il est vrai que ce qui est touchant en cette péripétie du trépas, c'est moins de laisser le corps partir en pâture au vert que de voir se disperser ainsi ces objets chers amassés au fil d'une vie. Enfin, à ma bien-aimée Jeanne, qui fit mon bonheur chaque jour où je la vis, je lègue tous mes biens, tant en Espagne que par-deçà. Et qui est, s'il vous plaît, cette Jeanne? Interrogea le notaire, levant le nez. Rassurez-vous, maître Acarin, Jeanne Léonard n'est que ma nièce, fille de ma sœur Antoinette et de son mari Simon, ici présent. Bien, bien. Et vous plaît-il de préciser ainsi ce que sont ces biens que vous lui laissez? Certes, c'est d'abord la maison où nous nous trouvons, que j'ai achetée voici 25 ans par le ministère de votre défunt prédécesseur, Guillaume Ramey, maison d'ailleurs où je suis né en des temps plus reculés encore. C'est aussi tout ce dont je n'ai pas fait les particuliers et qui donc par défaut reviendra à Jeanne. Mais ne parliez-vous pas de biens en Espagne? En effet, je n'y ai point de château, mais j'ai encore quelques créances, dont celle de ma pension sur l'archevêché de Tolède. Je doute que ma nièce voie un jour la couleur des réaux qu'on m'y doit, mais je veux, pour le bon ordre, en faire mention. C'est votre droit, nota le notaire, à charge, ricana-t-il, d'envoyer votre exécuteur recouvrer cette créance. Terminons donc par celui-ci, puisque vous aurez noté que j'ai désigné comme exécuteur testamentaire mon voisin Servet Hans, que voici. Quoique je ne doute pas un instant de son désintéressement, j'entends lui laisser, pour ses soins, la petite barque garnie d'argent que vous voyez sur ce meuble. J'ai souvent remarqué que cet objet l'intriguait. C'est sans doute peu de chose, mais c'est une reine qui m'en fit cadeau. Une reine, rien que cela, répéta le notaire avec un sourire sceptique. Une reine, en effet, une reine qui était même venue à Namur en un temps où vous étiez encore dans les choux, monsieur le notaire. Je partis peu après par la route de Saragosse-Lérida et Barcelone avec le frère Inigo sur mes talons. C'était le plus droit chemin. En traversant l'Aragon, je pensais à mon ami Contreras, dont la retraite n'était pas bien loin. Il n'était pas, bien sûr, question de le visiter. C'eût été imprudent tant pour lui que pour moi, d'autant que je n'étais pas seul. Nous avions 3 mulets, chacun le nôtre et un troisième pour le bagage. Inigo était pour le voyage un précieux compagnon. Il s'occupait des bêtes comme un vrai moko des moulasses, se procurait les vivres que nous faisions cuire le soir dans les auberges quand il ne se trouvait pas un couvent pour l'étape, et semblait connaître tous les chemins de Castille, d'Aragon et de Catalogne. J'ignorais qu'il existât chez les jésuites autre espèce que celle des pères. Cet ordre compte en effet en ses rangs des religieux d'un rang inférieur qui ne sont que frères, sans doute parce qu'ils n'ont pas assez d'entendement pour une compagnie où on est fort regardant à la vigueur de la cervelle. Il ne prononce pas tous les vœux, mais l'homme qu'on m'avait donné pour acolyte avait en tout cas fait celui de silence, car il ne prononçait pas 10 mots sur la journée. Il daignait parfois ponctuer mes considérations d'un geste vague ou d'un grognement, souvent feignait de ne pas m'avoir entendu, et n'était finalement réduit à prononcer des mots articulés que quand mes questions étaient assez claires et précises pour imposer une réponse qui le fût aussi. Quant à l'interroger sur notre mission, je n'y pensais même pas. Pour le reste, il n'y avait aucune hostilité dans son attitude, aucun air de surveillance, aucune velléité d'imposer une quelconque direction à notre voyage. J'étais tombé sur un taciturne, voilà tout. Moi qui suis tout le contraire, j'en étais réduit à commenter seul les curiosités de la route, à admirer le train d'un courrier de la poste royale, à rire de la bedaine prospère d'un prélat, à maudire plus souvent ce mulet qui tous les 100 pas troussait sa queue avec grâce pour m'envoyer d'entre les plis de son derrière rose une bouffée de vapeur nauséabonde. J'avais à l'œil notre bagage, et spécialement la malle où se trouvaient les fameuses musiques que j'avais à remettre au père Gontier. Je ne m'étais pas privé de les ouvrir, ainsi qu'il sied à un musicien, doublé d'un curieux. J'y avais trouvé tous les genres, motets, pièces à jouer, et même airs de scène, feuilles manuscrites et livrets imprimés, mais rien dans tout cela qui ne fût point de la musique et n'en fût exclusivement. J'avais cherché en vain quelques défauts d'écriture qui révélaient un sens caché, comme jadis à ce cantate domino de Rogier. Ces papiers ne laissaient non plus rien transparaître au soleil ni à la flamme. Les jésuites étaient à coup sûr de plus fins conspirateurs que mon regretté maître Rogier. C'est à peine que j'eus à montrer mon passeport pour passer en France. J'imagine que ma bonne tête de moine et mon pacifique équipage ne semblaient pas de nature à troubler la paix entre les deux royaumes. Ce n'est pas de tout temps qu'on a pu pénétrer en ce pays aussi aisément. Autant sa frontière du nord a été longtemps laissée sans défense, ouverte à quiconque entendait profiter des guerres intestines qui l'agitaient, autant celle du sud était bien close à l'ennemi espagnol. Il vient en Espagne infiniment plus de Français qu'on ne voit d'Espagnols faire le chemin inverse. Dans certaines villes du Sud, ils sont même si nombreux qu'on leur donne la comédie dans leur langue. Cela dit, les Français ont plutôt mauvaise réputation. Si on les dit rapaces, c'est qu'ils viennent pour faire prompte fortune attiré par cette idée partout répandue que tout l'or du monde gît au sud des Pyrénées et qu'il faut s'affairer à l'en faire sortir. On peut juger au costume de ces gens, de la diversité de leur pays. Les plus nombreux vont jambes nues, avec sur la tête une toque blanche, ronde et plate comme une assiette, et quoique leur pays soit à la limite des deux royaumes, ils parlent une langue qui ne ressemble ni à l'espagnol ni au français. Ils retournent alors chez eux, vivent tranquillement, et on les appelle alors bien naturellement les Espagnols. Si je craignais le peu de sûreté des routes de ce pays qui avait été si longtemps livré à la guerre, c'était heureusement à tort, car je n'y fis nulle mauvaise rencontre. Le roi avait donné l'ordre de courir sus à tous les gens de guerre à pied ou à cheval, trouvés errants et non munis d'une commission de sa main, et de les tailler en pièces. Apparemment, cette mesure avait eu quelque effet, et la seule mauvaise rencontre de mon voyage, je la fis comme on verra par-delà la frontière avec les Pays-Bas. J'étais impatient de voir le pays de France, en dépit de cet adage qui dit que ceux qui y vont doivent apporter trois grands sacs, l'un rempli de sagesse, l'autre de patience et le troisième d'argent, et qu'ils se videront très vite tous trois. L'ambiguïté de la situation des Pays-Bas méridionaux était sans doute pour quelque chose dans cet empressement. Quoiqu'étrangers, ne sommes-nous pas davantage de France que d'Espagne par le sentiment que donnent les choses de l'esprit? Mes chansons n'avaient-elles pas connu quelques vogues à Paris alors que le sel n'en pouvait être goûté à Madrid ou Valladolid? Pourtant, ce royaume était ennemi de mon roi, et les terres de mes aïeux, ces chères provinces que j'allais enfin retrouver, n'avaient jamais connu du français que la guerre et les malheurs. J'étais par ailleurs un peu inquiet de la langue que l'on parlait en ce pays où j'entrais. Certes, c'était celle de mes parents, et je la pratiquais tous les jours, mais à y bien penser, ce n'était qu'en certaines occasions. L'espagnol, en effet, se taillait la meilleure part pour ce qui touchait aux choses de la vie courante, sans compter le latin pour celle de la religion. Je n'avais jamais, en français, commandé une chopine, fait ferrer un mulet ou demandé mon chemin. Pour tout cela, je ne savais guère plus de ma langue que ce qu'on m'en avait appris jusque l'âge de 11 ans. Quand je passai la frontière, je fus à la fois rassuré et atterré. Personne, ou presque, n'entendait le français dans cette province. Il paraît que seuls les gens de qualité le parlent, et encore est-ce à grand peine. Il s'y pratique pour le reste un galimatias extraordinaire dont on ne comprend goutte ailleurs. Un religieux que je croisais dans une auberge et qui se rendait en Catalogne m'expliqua qu'il fallait aller bien avant vers Paris pour entendre parler le français ou quelque chose qui y ressemble. Avant ça, on est en Languedoc, pays ainsi nommé pour ce qu'on dit « hoc » pour « oui » et qu'il n'est juron mieux sonnant que « corde stour » à ce qui est un parler bien étrange. Mes craintes étaient donc vaines et je n'avais en rien à me soucier de la pureté de mon parler avant bien des lieues tout au moins. Nous marchions bien, faisant nos 6 à 8 lieues par jour. Au-delà d'une grande cité nommée Montpellier, nous aurions pu aller plus vite encore en usant de la poste royale, institution nouvelle et fort commode. Sur les grandes routes, on trouve en effet des relais toutes les 6 lieues. On peut en passer 2 sur la journée si l'on paie le prix de la poste qui autorise le galop, 1 seulement pour la demi-poste qui borne au pas et au trot. On use de bons chevaux que l'on dit avoués du roi et dont le vol est toujours puni de mort. C'est là une belle invention qui favorise grandement le voyage et on se sert de la poste en ce pays bien davantage qu'en Espagne, où elle est sans doute mieux montée, mais ne sert d'ordinaire qu'au courrier royal. Je pensais à vendre nos mulets pour user de ce transport, mais outre que je ne suis guère accoutumé au cheval, je fis le compte qu'il nous en coûterait près de 100 sous par jour. D'ailleurs, le pays que nous traversions alors n'incitait pas à la hâte, bien plus riant qu'il était que ceux d'Espagne. Tantôt montueux et tantôt plat, il était plein de romarin, lavande, thym, myrte et laurier, qui croissent naturellement là où, de l'autre côté des Pyrénées, on ne voit que broussailles. Je crus arriver au paradis en parvenant du côté de Nîmes, là où commence la Provence, tant le pays devient agréable à la vue. Les campagnes sont merveilleusement fertiles, c'est partout abondance d'oliviers, grenadiers, amandiers et mûriers blancs, sous lesquels on sème le blé, qui vient en quantité. Je venais à rêver de m'établir en cette province, où l'on assure que le printemps règne même au mois de novembre. Peut-être s'y trouvait-il quelque chapelle en quête d'un maître de chant ou d'un diseur de messe. Mais, illusion que tout cela, la route était longue jusqu'à Paris et au-delà jusqu'à mon pays de Namur, pays que je tâchais d'imaginer à mesure que j'avançais sur le chemin. Je n'en gardais à vrai dire qu'un souvenir bien vague, froidure de l'hiver, image dernière aussi de cette vallée d'où m'avait tiré jadis le coche du grand voyage, printemps lumineux et sonnaille de cloche. Je restais quelques jours à Avignon pour me reposer, car nous faisions route déjà depuis 6 semaines sans presque nous arrêter. C'est là une ville admirable où l'on voit autant de clochers qu'en Espagne. Les papes y séjournèrent jadis en un immense palais planté sur le rocher, mais qu'on a laissé force abîmer et qui n'est plus guère habité. Non loin de cette ville, je vis la vallée close. C'est un cirque de belles montagnes où une forte rivière nommée la Sorgue surgit tout droit des entrailles de la terre. On y honore la mémoire de Pétrarque, poète chéri des musiciens. À Avignon, je suivis cette trace dans l'église de Sainte-Claire, non loin de la maison des Jésuites où je logeais. Je rêvais d'y voir ainsi la belle Laure de Nove sous les traits d'une certaine dame Hernanque, dont l'image ne me quittait guère sur ses routes. Il n'y avait hélas personne dans la chapelle, sinon une vieille mendiante qui me pourchassa dans son parler obscur. Elle dut se demander qui était ce prêtre qui la fixa d'un regard chargé de larmes avant de lui donner une pièce d'or. À 1 semaine de route vers le nord se trouve Lyon, qui est une fort grosse ville de plus de 6 lieues de tour. Elle a 2 bourgs, 2 monts, 2 rivières et 2 ponts, dont l'un compte 19 arches. On y voit quantité de belles places et belles maisons, et un hôpital que l'on met au nombre des merveilles du monde. Pour le reste, on y trouve autant qu'ailleurs des rues étroites, sales et puantes. Quelques étapes plus loin, ce n'est plus seulement le paysage qui change, mais aussi la langue. J'entendis enfin parler français. La frontière des deux parlers ne tient à nulle montagne, à nul fleuve. Elle est cependant aussi nette que celle de 2 États, comme celle qui partage aux Pays-Bas notre langue de celle dont on use dans les provinces du Nord. D'un village, d'une maison à l'autre, on ne se comprend plus. Ces grands prodiges et mystères que les peuples descendus de la tour de Babel se soient établis là où ils sont et n'en aient bougé depuis. Le climat changea aussi brusquement et je vis tomber plus de pluie sur 2 jours que je n'en voyais en Espagne en 1 an. Je me disais que si le pays d'où je venais trouvait son or en ces mines lointaines, celui-ci avait le grand avantage de le tirer de sa propre terre et sans y devoir creuser. Cependant, malgré cette abondance, le paysan en ce pays met véritable malice à paraître misérable. Il s'habille de guenilles, s'enveloppe les pieds de chiffons, comme s'il n'avait même pas de sabots à se mettre. On dit que c'est là habitude de méfiance et que sa vie est un combat perpétuel contre le percepteur du fisc, qui le presse de charges à tel point qu'on le nomme le croqueur. Est-on inconnu, a-t-on figure à venir de la ville, on ne trouvera alors dans les chaumières que pauvres gens puisant fèves et navets à même l'eau de la marmite. Il m'est cependant arrivé plus d'une fois, faisant sonner l'argent sur la table la plus mal garnie, d'y voir surgir par enchantement vaisselle, viande et pain frais. Il nous arriva, quand nous avions mal jugé de la longueur d'une étape, de ne trouver pour la nuit ni auberge ni couvent. Je demandai alors l'hospitalité. Si la qualité d'ecclésiastique n'ouvre pas ici toutes les portes, la vue de l'or y réussit toujours, tant décidément cette langue semble universelle. Des bourgeois nous logèrent comme de simples laboureurs, et je mesurais chaque jour davantage combien les us diffèrent d'un pays à l'autre. Attrait de la nouveauté ou conformité à mon tempérament propre, je me trouvais fort content des mœurs que je découvrais et que j'eusse aimé miennes depuis plus longtemps. Ainsi le français aime-t-il manger et boire. Quand l'espagnol expédie en 2 minutes quelques olives et un morceau de pain frotté d'ail, lui au contraire respecte l'heure des repas à l'égal de celle de la messe et mange avec solennité, même s'il n'a à se mettre sous la dent que des légumes mijotés et une tranche de pain. Que sa table soit riche ou pauvre, il s'y assied avec gravité, ne la quitte qu'à regret, bref, lui fait honneur comme un don du ciel, ce qui, somme toute, est plutôt d'un bon chrétien. Les bénédicités qu'on me pria de dire tout au long du voyage sanctifièrent des mets dont je n'imaginais pas jusque-là qu'on les pût avaler. J'ingurgitais des choses surprenantes, escargots, hérissons, grenouilles et tortues, en ce pays où la corneille au chou passe pour le mets le plus fin. Pour l'ordinaire, on mange force viande à la ville, plutôt légumes à la campagne, et partout abondance de fromages qui sont bien meilleurs et plus variés qu'en Espagne. Les femmes ne boivent pas de vin, hormis les vieilles qui y prennent des forces. Les hommes d'ailleurs en consomment modérément et le coupent d'eau. Comme on ne le garde pas dans des outres, il n'est pas gâché ici par le goût de poids. Je bus d'excellentes bouteilles, jusqu'à Paris du moins, mais il paraît que c'est par chance d'avoir traversé les pays où l'on fait les meilleurs crus. L'usage est aussi de rester à table, à deviser après manger. Il est alors une mode que l'on ne connaît guère par chez nous, qui consiste à fumer une herbe que les Portugais appellent tabaco et que l'on nomme ici nicotiane, du nom de ce Nico, qui est aussi l'auteur du fameux dictionnaire. On dit cette plante bonne pour le cerveau, la vue, l'ouïe et les dents. Elle se brûle en un petit pot de bois dur, le cornet, dont on aspire la fumée par le conduit qui en sort. J'en essayais sur la foi des recommandations de la faculté, mais je fus pris aussitôt d'un étouffement qui m'en dégoûta, et je n'y ai plus touché quelques merveilles que j'en ai pu espérer. Enfin, après un nouveau mois de voyage depuis Avignon, j'arrivai à Paris. Qui n'a vu cette ville n'a rien vu. On m'assura qu'elle avait perdu la moitié de sa population au temps des guerres et du siège qu'en avait fait le roi Henri pour s'assurer le trône. Si même cela est vrai, on ne peut nier qu'il ait 10 fois réparé ce tort tant il l'a fait croître et embellir. Partout, ce n'est que rues bien ordonnées, places nouvelles, fièvre de construire. Je vis ainsi le pont Neuf, très justement nommé, qui fait sur le fleuve 2 belles lignes de pierre blanche. On dit qu'il se trouve toujours là un moine, une putain et un cheval blanc, ce qui est vrai sans doute, mais ceux qui soutiennent que la chaussée y est moins pourvue en pavé qu'en étron n'ont certainement jamais vu Madrid. Non loin de là se trouve la grande galerie du Louvre, achevée à peine et s'étendant sur une longueur incroyable entre ce palais et un autre qu'on nomme les Tuileries. Tout cela donne un air de grandeur, de richesse, de diversité, de toutes sortes d'arts et de sciences que je ne vis nulle part et surtout pas à Madrid. Pour le reste, on trouve à Paris crottes, pauvres, carrosses et tombereaux, bêtes et gens qui vous pressent, mais c'est là l'embarras des grandes cités, et j'aime assez me mêler à ce grouillement. Je me rendis compte bien vite que la situation des jésuites à Paris était bien plus embrouillée que ce que m'en avait dit le père Canot. Je me rendis plusieurs fois en leur maison, et comme on ne semblait avoir de moi aucune méfiance, je pouvais entendre ici et là bribes d'avis ou couleurs d'opinion. Je les vis assez partagés sur le roi. Certains l'estimaient, d'autres le traitaient en hérétique, tenant pour rien sa conversion. Tous s'entendaient à le traiter de paillard et d'adultère. La compagnie pouvait passer pour proche du parti de la reine. La honte de cette fuite en charrette avec le procureur sur un bidet était restée au travers de quelques gorges, de même que le serment de fidélité au roi et à la loi du royaume que les pairs avaient dû prêter en 1603 pour rentrer à Paris. Le père Gontier en était premier. Il avait été ligueur, et si le roi lui avait pardonné, il ne l'avait pas soumis pour autant. On l'avait entendu interpeller Henri à Saint-Germain, alors que sa maîtresse, Madame de Verneuil, le faisait rire par ses grimaces. « Sire, lui avait-il demandé en chair, vous lasserez-vous jamais de venir avec un sérail entendre la parole de Dieu et faire si grand scandale en ce lieu saint ?» Par contre, nul ne pouvait nier qu'un des personnages les plus influents de la cour fut le père Coton, grand ami et bientôt confesseur de sa majesté. Je ne vis pas ce jésuite, mais il n'était question que de lui. C'était surtout un prédicateur, sobre, superbe et prenant, à l'opposé des prêcheurs de ce temps dont l'Estoile écrit que « toujours il souffle bourdonne, faisant les marmiteux, renversant les prunelles de leurs yeux du plus creux de leur âme voûtée, battant le mouvement d'un moulin à vent ». Il passait pour indulgent envers les libertins, et cela lui donnait un avantage considérable, cette espèce étant fort commune à la cour. On le lui reprochait, tout en convenant qu'il obtenait plus pour la religion qu'un autre n'eût fait par la rudesse. Le roi n'envoyait-il pas souvent promener les solliciteurs réformés en leur disant joliment « J'ai de ce côté les oreilles bouchées de coton ?» Néanmoins, ses ennemis rappelaient volontiers qu'un jour, devant exorciser une possédée, il avait égaré la liste des questions qu'il entendait poser à Satan quant à leur majesté, au bien fondé d'une guerre avec l'Espagne, au supérieur de la compagnie lui-même. Malgré cela, Henri IV l'aimait et le protégeait. N'avait-il pas renoncé à son fameux juron « Jarni Dieu » pour « Jarni Coton », convaincu qu'il était, somme toute, moins grave de renier son ami Coton que de renier Dieu lui-même. les ennemis du jésuite laissaient entendre que le coton le plus fin venait d'Espagne, mais c'était là méchanceté gratuite, car il était plutôt mal vu en ce pays. Somme toute, la compagnie de Jésus gardait deux fers au feu, et c'était là prévoyance bien dans sa façon. Pour l'opinion qu'on avait d'elle, elle était aussi ambiguë. On accusait les jésuites de travailler en secret à faire assassiner le roi. Par deux fois déjà, on a écartelé de mauvaises gens pour s'y être essayé. Sans qu'on l'ait pu prouver, il s'était dit que les bras qu'on avait arrachés ainsi au supplice avaient été armés par d'autres, toujours roses et dodus, sous de noires soutanes. Aux grandes dames aussi de la Sorbonne, qu'on disait fort jalouses de leur enseignement, ils ouvraient leur collège dans tout le royaume, à l'image de la toile que filent les araignées. On avait beau les critiquer, où qu'ils fussent, toutes les bonnes familles y envoyaient leurs fils. C'était un corps étranger et sans cesse grossissant, avec ordre et méthode. L'exemple de la charité chrétienne de certains ordres ou la pureté d'autres n'était rien, au regard de la puissance qu'ils exerçaient par la pensée pour la plus grande gloire de Dieu. C'est évidemment auprès du père Gontier et non du père Coton que j'eus à m'acquitter de ma mission. Il me reçut avec des airs de conspirateur, comme si j'avais porté tous les secrets de l'État dans les fontes de mes braves mulets. Le frère Inigo avait pris avec sa maison les contacts nécessaires dès notre arrivée à Paris, où je trouvais à me loger en une auberge fort plaisante, à l'enseigne d'une pomme d'or, comme un voyageur ordinaire. Ce Gontier était un homme âgé déjà, maigre et long, dont l'intelligence et la froide passion sautaient aux yeux. « Je vous attendais, padre, me dit-il comme un Espagnol avant de m'interroger par petites questions précises. Votre voyage s'est-il bien passé ?»«
Ma foi, pour le mieux, nous avons traversé des pays agréables et ce n'est pas cela que je vous demande, » fit-il agacé. « N'avez-vous pas été inquiété, suivi ?»«
Inquiété, non, suivi, je ne le pense pas. Nulle question sur l'objet de votre voyage ?»«
Non, rien en tout cas qui excéda le terrain de la politesse. »
Même ici à Paris, même de la façon la plus innocente, par exemple à cette auberge où vous logez?
Non, je ne vois pas.
Avez-vous examiné ces documents que vous me remettez?
Oui.
Y avez-vous trouvé quelques singularités?
Nullement, ce sont pour moi des musiques tout à fait ordinaires. Si elles renferment des secrets, je puis vous assurer qu'ils resteront scellés aux plus habiles musiciens.
Est-ce trop vous demander que de connaître le procédé dont vous usez?
C'est trop demandé, en effet.
Ce ton commençait à m'exaspérer. Après tout, ne méritais-je pas davantage de considération pour avoir traversé la moitié de l'Europe au profit de ces gens à qui je ne devais rien? Je le lui fis remarquer, et me laissai emporter, lui lançant à la tête l'idée qui m'avait quelquefois traversé l'esprit, à moins qu'il n'y ait là nul mystère que ces musiques ne soient rien d'autre que ce qu'elles semblent être, et que l'on m'ait ainsi promené, Dieu sait pourquoi, pour les couilles du pape. « Voyons, padre, restons patients, ainsi qu'il sied à des hommes d'Église, et laissons le soin des attributs de sa sainteté aux cardinaux du conclave. L'intérêt d'un message n'est pas seulement dans sa lettre, mais souvent davantage dans celui qui le remet, et dans sa façon de la conduire. Ainsi, ce petit voyage ne venait-il pas aussi à point nommé pour vous? Si j'en crois le père Cano, fit-il avec un petit sourire, vous avez, je crois, de la famille à voir. » L'allusion était claire. Le jésuite était bien sûr au courant des circonstances de mon départ, je n'insistais pas. Je m'en retourne en effet dans mon pays. À ce propos, pensez-vous plus indiqué que je reprenne la route sans tarder ou que je reste un peu à Paris?
Qui suis-je pour vous dicter une conduite faite à votre gré?
C'est bien ainsi que je l'entends, mais vu l'objet de ma visite, peut-être ne devrais-je pas trop me montrer?
Au contraire, c'est en vous cachant que vous attireriez l'attention.
Si vous êtes passé en cette ville, il tombe sous le sens que c'est pour vous y promener et non pour vous y clapir comme un lapin. Tenez, vous avez certainement des musiciens de vos confrères à visiter. Nous n'en manquons point, comme vous savez. Nous prîmes congé sans qu'il me tendît sa main à serrer. Adieu, monsieur Dufon. Nous vous reverrons peut-être, puisque vous semblez être le parfait messager dont nous avions besoin. Dieu vous garde des dangers de la route et surtout des séductions des hérétiques qui sont périls plus grands encore. En fait de séduction, je succombais plutôt à celle des catins de Paris qui sont grandement expertes en leur art. Si Ambroise Paré affirme en ses doctes ouvrages que les femmes sont en leur intérieur humides et froides, c'est qu'il n'a jamais fréquenté celle du faubourg Saint-Antoine.
Et quand il écrit de même que si leurs organes sont à l'intérieur, cela tient à l'imbécilité de leur nature qui n'a jamais pu les jeter au dehors, le grand savant s'expose assez, et cet état de choses me semble plutôt heureux au regard de l'usage qu'on en a. Comme j'avais été chaste depuis mon départ de Madrid, je n'eus pas le sentiment de commettre là un irrémissible péché de luxure. Non, je pensais prendre plutôt, Dieu me pardonne, quelques dispositions de salubrité propres à me conserver la santé. Et comme je dépensais là l'or du roi et des jésuites au lieu du mien propre, j'en tirais un agrément supplémentaire. Le père Gontier m'avait recommandé de me faire voir plutôt que de me cacher, et sans doute fit-il aussi en sorte que son conseil fût rapidement observé, car on vint me trouver à mon hôtel pour me prier de dîner à l'hôtel de Sens. Une telle invitation n'était obscure que pour moi, qui n'étais point de Paris. Je tressaillis quand on me dit de quoi il retournait. L'occupant de cet hôtel n'était autre que Marguerite de Valois, cette fameuse Margot, jadis épouse d'Henri IV. Elle avait été longtemps déportée dans je ne sais quelle forteresse de province et n'était rentrée à la cour que depuis 2 ans. Elle menait un train de reine poussant à l'extrême la débauche et la piété, disposition moins contradictoire qu'il ne paraît. Elle recevait à dîner ou à souper tout ce qui pouvait passer à Paris de curieux en fait de poésie ou de musique, agrément dont elle était prodigieusement friande. Qu'un musicien étranger de quelque renom s'y trouvât convié n'avait donc rien d'extraordinaire. N'empêche, la chose n'était pas sans m'intimider. La réputation de Marguerite y était sans doute pour quelque chose, associée évidemment à ce souvenir de ma première enfance. Son passage sur cette barque tout emplie de fleurs et d'harmonie n'était-elle pas ma plus lointaine réminiscence de ce monde comme la cause première de ma vocation musicale? En me rendant à l'hôtel de Sens, du nom de l'archevêque qui l'occupait avant elle, j'étais donc inquiet, comme j'avais rarement été, quelque familier que je fusse des grands de ce monde. J'avais de la fille d'Henri II une idée de ravissement, tout autant nourrie de sa réputation de beauté plus divine qu'humaine, que de cette lointaine et éblouissante image que je n'avais pu garder. Même si elle devait avoir en 1607 presque autant d'années que moi aujourd'hui, je faisais le compte de son âge en entrant chez elle, je me disais qu'elle devait avoir gardé de l'agrément. Quelle déconvenue ce fut quand je fus présenté à ce pot à tabac joufflu, fessu et mamelu. La belle Margot de jadis n'était plus que la grosse Margot, sa beauté était devenue obésité, son élégance ventripotence. Cette chute était d'autant plus cruelle qu'elle ne voulait s'avouer, recourant à des artifices confinant à la vulgarité. La poudre cachait mal son visage couperosé, et comme elle perdait ses cheveux, elle portait des perruques faites de la tignasse de grands valets blonds qu'on lui tondait de temps en temps. Mais le pire était encore cette gorge abondante dont le corsage sustentait la vaste mollesse et qu'elle découvrait largement au-delà de ce point où l'on pose le nom du fils au signe de croix. La princesse avait enfin le bas du corps engoncé dans une large armature de fer et de velours, comme faite pour donner à ce buste énorme un semblant de proportion, mais trop justement calculé à la mesure des portes. Autour d'elle, c'était partout débauche de vertus gadins à l'ancienne et de rubans, courses de négrillons et d'animaux de toutes sortes. Passé la navrante impression première, le sentiment ne pouvait que gagner, car Marguerite de Valois rachetait d'autres façons ce de haut ingrat. Je connus en ma vie peu d'hommes qui fussent plus lettrés qu'elle, et à vrai dire nulle autre femme. Elle était aimable avec ses hôtes, plaisante et sans apprêt, amenée sans doute à cette simplicité peu commune chez les princes par l'éloignement du monde où elle avait été si longtemps. Elle m'accueillit comme monsieur de Namur et me présenta elle-même aux autres commensaux, dont 2 étaient aussi musiciens. On passa à table, et le repas, ainsi qu'on m'en avait prévenu, s'engagea vite à la manière d'un débat à la fois badin et sérieux sur l'art de terpe, débat où elle n'était peut-être pas la moins experte. Elle connaissait les musiciens du temps, et ses avis allaient bien au-delà de l'intuition ou de l'opinion commune. Elle avait son sentiment sur la base de l'orgue dans la mélodie accompagnée, et quand il fut question de la danse en Espagne, elle ne confondait pas Mauresque et Villano. C'est qu'elle écrivait elle-même mélodies et diverses jolies choses pour un petit orchestre qu'elle avait et qu'elle nous fit entendre. Elle s'enquit de la qualité des chanteurs à la capilla réal. « Il n'est pire chose que de vilaines voix pour chanter les offices, » affirma-t-elle. « Certains défendent que seul compte la prière. Je suis d'avis, au contraire, que l'on doit offrir à Dieu le plus beau de la musique. Je ne puis que lui donner raison. « Tenez, » me confia-t-elle en me saisissant soudain le bras, « je suis bien malheureuse. J'ai à ma chapelle 14 Augustins qui font une sorte de garde, se relevant pour chanter chaque nuit et jour la louange du patriarche Jacob. C'est une horreur, à croire qu'ils se sont donné le mot pour chanter au plus faux. Je vous ferai entendre cela, je crois que je vais les renvoyer. » Il y avait à table un chantre-compositeur de la chapelle de Notre-Dame du nom de Dubecourt, qui me fit vite l'effet d'un fat plein de lui-même. Il savait que j'étais d'Espagne et semblait n'avoir d'autre but que d'abaisser notre musique pour vanter celle de France. La maîtresse de maison vit son jeu, s'en amusa et tâcha de nous aiguillonner l'un et l'autre à faire valoir nos raisons. Il fut donc question des 1000 procédés dont pouvait s'enrichir de part et d'autre des Pyrénées l'harmonie et le contrepoint. Le beau clavecin de la salle à manger fut fort sollicité sans que l'une ou l'autre partie ne l'emportât. « Allons, » conclut le nommé Dubecourt, décidé à prendre un avantage décisif, « et écoutez donc cette petite musique que j'ai lue par hasard hier, et convenez qu'il est musicien que de France pour inventer ceci. » Et il se mit à chanter le dessus d'un kyrie, jouant les autres voix. Je sursautai aux premières mesures, Marguerite le vit, me pensant mettre bas les armes. Je ne dis rien, tandis que mon rival continuait avec prétention, s'interrompant parfois pour commenter la subtilité d'un accord, le jouer à nouveau. Quand il eut fini, je pris l'air contruit de celui qui se rendait à de tels arguments. « Et de qui donc est ce beau kyrie, monsieur, s'il vous plaît ?»« Il est d'un compositeur de ce royaume dont le nom est peu connu, ce qui montre bien les multiples ressources qui sont les nôtres. Mais vous ne dites pas son nom ? Ah, c'est inutile, vous ne le connaissez pas. » J'allais prendre sa place au clavecin. Je le connais plus que vous ne pensez. Pour preuve, voici l'Agnus Dei de la même messe. » Je le chantais et jouais d'un bout à l'autre, mais sans nul commentaire. « Madame, dis-je pour conclure, mon confrère et moi avons eu l'honneur de vous jouer la messe à 8, un jour l'amant et l'aimé, de Jean Dufond. » « Mais qu'est-ce à dire ? » balbutia Dubecourt. Jean Dufond, aussi nommé Jean de Namur, chantre-maître de sa majesté Philippe III, et votre serviteur. Et je saluai. La princesse éclata de rire. « Jarnicoton, comme dit notre bon roi, vous l'avez bien mouché. Ah oui, pour cela, bravo, vous l'avez mouché. » C'était le mot juste, et je n'en étais nullement mécontent. Je pus alors goûter plus à mon aise aux finesses de ce repas, et surtout au meilleur vin que je pense avoir bu de ma vie. J'en abusais un peu et me trouvais dans les vapeurs de ce nectar plus d'esprit que je n'en pensais avoir. Margot elle-même n'était nullement abstème et semblait vouloir honorer ses invités en cette métaphore disant d'un gosier pentu qu'il boit comme un chantre. La conversation prit à ce moment une curieuse tournure. Celui des convives, qui n'était pas musicien, mais sans doute un familier de la princesse, se mit à user avec elle d'une sorte de galimatia qui leur semblait familier. Langage où on appelait plus la vache autrement que mammifère galactophore, ni le chat d'un autre nom que maître Mistri ou Ramina Grobis. J'ignorais que la mode était à ce charabia, obscur et ampoulé, mais je me piquais au jeu avec quelque adresse. C'est que, des années durant, cet amusement avait été pour Nicolas et moi une sorte de seconde nature. C'en était même ennuyeux pour les autres qui prétendaient qu'on ne pouvait nous comprendre sans user d'un de ces dictionnaires à la mesure de celui qu'Estienne fit pour entendre le latin. « Mais ce flamand est merveilleux, voilà qu'il parle Phébus !» C'était donc Phébus que je parlais. C'était fait, j'étais en grâce, et je ne pouvais que regretter de n'être pas né 20 ou 30 ans plus tôt. À quelques jours de là, je fus à nouveau invité à souper à l'hôtel de Sens. On me reçut cette fois presque comme un familier, et je n'étais pas loin de me prendre pour tel parmi d'autres poètes ou musiciens plus intimidés que moi. Marguerite était souffrante ce soir-là et se retira bientôt dans sa chambre, invitant chacun à la suivre. J'observais cette pièce, toute tendue de tapis de Turquie et ornée d'un seul portrait, celui d'Henri IV. Je ne pouvais manquer de m'interroger sur le sentiment qu'elle pouvait avoir pour le roi qu'il avait jadis épousé avant d'être cause de son malheur. Je vis aussi pendues au-dessus du lit ces fameuses boîtes où elle conservait, disait-on, le cœur embaumé de ses amants. La soirée se poursuivit en musique, on chanta des madrigaux et même quelques chansons françaises de ma plume qu'elle avait eu la délicatesse de chercher et faire copier en secret. Ce fut un moment exquis entre gens d'esprit, sachant que la musique est plus grand agrément encore quand on la fait que quand on l'écoute. À vrai dire, je croyais rêver. J'étais familier de la cour d'Espagne, où le cérémonial est d'une incroyable complication, les princes y sont des dignités inaccessibles, et les grands même traitent pour quantité négligeable le reste de l'espèce humaine, et voici que je chantais des madrigaux au chevet d'une princesse qui avait été reine de France. Quand je pris congé de Marguerite de Valois, ne pensant pas la revoir, car je devais bientôt reprendre la route, je ne pus m'empêcher de lui conter le lointain souvenir que j'avais d'elle et la fascination que je n'avais gardée. Elle parut plutôt contrariée. « Namur, dites-vous, je ne sais plus, ma foi oui, c'est bien possible. » Je n'insistai pas, me disant que sans doute elle préférait oublier le temps de sa fortune en regard des malheurs qui l'avaient suivi. Mais sans doute, plus simplement, était-ce le déplaisir de voir devant soi arriver à l'âge mûr quelqu'un qui n'était encore qu'un nourrisson à l'époque de sa propre jeunesse. Trouble bien ordinaire pour le commun, mais qui devait être grand tourment pour une femme comme elle, ne sachant vieillir et niant les outrages du déclin par les artifices les plus saugrenus. À vrai dire, du haut des 33 ans que j'avais alors, je faisais presque figure de Mathusalem à côté des amants qui se succédaient en ce lit au pied duquel je chantais. Selon les commérages de la rue, qui est souvent de ces choses prodigieusement curieuses et instruites, l'amant en titre de la grosse Margot n'était autre pour lors que le jeune Villard, qui précisément chantait, et de fort jolie façon, en notre compagnie. Je ne doutais pas un instant de la chose, à sa façon de lui porter la main à la braguette, touchant sans vergogne ce qu'on appelle son épée de chevet. Les mieux renseignés assuraient qu'avant de le baiser, elle le faisait habiller à la mode de sa jeunesse avec la fraise, l'épée et à la toque un plumet. Il avait depuis peu succédé à un nommé Bajomont, à la fois très beau et très bête, poinceau assez toutefois pour ne s'être pas enfui avant de crever à la tâche. Les amours de Marguerite étaient tumultueuses toujours, tragiques parfois. On décapita ainsi à la porte de son hôtel un jeune homme de 18 ans pour le motif qu'il avait aussi la veille son successeur dans la couche princière. Comme j'ai dit déjà, de tels débordements n'empêchent pas cette princesse d'être très pieuse et savante, et du moins cet exemple m'apprit-il à ne pas juger mes semblables sur leurs mœurs, relevassent-elles comme en l'espèce davantage de la fureur charnelle que de la légèreté commune. Le bruit courut vite qu'un musicien fameux de la cour d'Espagne se trouvait à Paris, et on me signala qu'Eustache du Corroy souhaitait me voir. Il portait le titre de surintendant de la musique, terme bien pompeux, ne signalant d'autre fonction que celle de maître de chapelle du roi Henri IV. C'était un vieil homme déjà qui devait être assez près des 60 ans. Son nom m'était évidemment connu comme l'une ou l'autre de ses œuvres. Je l'abordais avec toute la déférence qu'un jeune doit aux anciens et un lieutenant de chapelle à un maître. Il apprécia la chose et se fit même amical quand je lui dis que je ne restais que quelques jours à Paris. C'est que le monde des musiciens est fait d'envie et de jalousie, et la vogue de l'un est ressentie par l'autre comme une disgrâce. Les musiciens français avaient assez à faire avec les Italiens pour ne pas devoir aussi se soucier de la concurrence d'un vague flamand d'Espagne, d'autant que l'espèce en était assez peu connue à Paris pour donner l'avantage de la curiosité. Il m'interrogea sur ses travaux et me parla des siens. « Voyez-vous, me dit-il, il m'a fallu arriver à cet âge pour comprendre qu'il n'est de musique sans mesure. Oh, cela ne m'est pas venu comme cela, et je prenais le vieux Lejeune pour un casse-pied à bassiner tout le monde avec sa mesure. Il n'a d'ailleurs achevé de me convaincre que bien après sa mort, lors d'un fameux concert où l'on chanta ses psaumes, la mesure, tout est là. » Si les maîtres de jadis savaient amener les hommes à de telles passions qu'ils voulaient, c'était seulement par la mesure. N'est-ce pas votre avis ? La grave question de la mesure ne m'avait, à vrai dire, jamais ôté le sommeil. Je répondus vaguement que je m'en remettais à cet égard à la pratique des anciens. Ducoroy était décidément de bonne composition dans tous les sens du mot, et il abonda dans mon sens. « C'est parfaitement juste. La pratique des anciens et la lecture des bons auteurs, voilà le fondement de notre art. Mais n'oubliez pas la mesure. Tenez, enchaîna-t-il, l'œuvre de ma vie. » C'est un office de défunt que j'ai fait l'an passé. On le jouera à mes funérailles, sûrement, mais j'espère l'oublier avant cela. C'est qu'il est digne d'un roi. Vous voulez donc enterrer Henri? Malheureux, taisez-vous! Je n'ai pas dit cela. Maintenant, sachez que certains ont déjà voulu s'en charger, et je suis d'avis qu'ils y arriveront bien un jour. Ce sera certes un grand malheur, mais du moins, le dauphin aime-t-il fort la musique et la pratique-t-il lui-même? « Le roi Henri ne l'aime-t-il donc pas ? Il s'en moquait éperdument. La seule fois où on le vit s'occuper de nous, ce fut pour trancher une préséance entre ses chantres et ceux de Notre-Dame. Du moins, en Espagne, avez-vous la chance d'avoir un roi musicien et une cour sensible aux belles choses. Chez nous, pour avoir quelques succès, il faut amuser des gens à qui ne plaisent que les pitreries et les pires grossièretés. Vraiment ? Tenez, on ne parle ces jours-ci que de la mascarade de la foire Saint-Germain. C'est un ballet comme on en donne des centaines chaque année. Allez le voir, vous m'en direz des nouvelles. » Je suivis son conseil et allai à cette mascarade qui était une histoire sans queue ni tête, où dansait sur une médiocre musique tout un monde de carnaval. Le principal personnage en était un grand mannequin figurant une matrone, d'où une sage-femme tirait successivement 4 astrologues, 4 peintres, 4 chirurgiens et 4 voleurs de bourse. C'était l'occasion d'un grand embrouillamini de bêtises, et le public avait joie à voir les voleurs couper le gousset des chirurgiens pendant que ceux-ci leur arrachaient les dents. Pour le reste, Ducoroy n'avait pas tort en évoquant les intrigues contre la vie du roi Henri. Au temps où je quittais Paris, au début de septembre, on décapita en grève ce gentilhomme normand nommé Raqueville qui avait, avec une sorcière, tenté de l'envoûter en plantant des aiguilles dans une poupée de cire à son image. On parla beaucoup de cette affaire et on en tira de funestes augures pour Henri IV du fait qu'à ce moment apparut dans le ciel cette comète assez belle et grande dont beaucoup s'épouvantèrent et dont on se souvient encore aujourd'hui. En ce qui me concerne, il s'était en si peu d'années vu au ciel tant de prodiges que j'avais renoncé à m'en effrayer ou même à m'en soucier. Mon compagnon de voyage semblait par contre s'y intéresser fort, se départant pour l'occasion de son mutisme coutumier. Il montra plus d'excitation curieuse que de frayeur, soutint que ce phénomène n'avait rien de mystérieux, et me précisa que les pères de son ordre avaient calculé que la mécanique céleste devait le reproduire tous les 3/4 de siècle. S'il en est ainsi, dis-je rêveur, en faisant le calcul de mon âge, j'aurai 106 ans au retour de cette comète, je serai alors trop myope sans doute pour la voir aussi bien que cette nuit. À cet avis, comme à quelques autres, je soupçonnais Inigo d'être bien plus savant qu'il n'est de règle pour un simple frère chargé de mener par-delà 3 mulets et leur maître. Je partis de Paris par la route de Reims, qui est le plus droit chemin pour le comté de Namur. Il me vint l'idée de passer par Ivoix, dont j'étais chanoine et que je savais proche de la limite méridionale des Pays-Bas espagnols. Je me disais que c'était la moindre des politesses pour la collégiale Notre-Dame qui me servait depuis 3 ans, ma prébende avec une louable ponctualité. J'eus quelque peine à en trouver le chemin car le lieu n'est pas si considérable qu'on le connût à 10 lieues. Enfin, on me le signala comme étant en un bourg nommé Carignan, situé sur une rivière appelée Chière, elle-même affluent de la Meuse. La Meuse, voilà, bien qui me disait quelque chose, et j'eus enfin, en l'entendant nommer, le sentiment d'être proche de mon pays. J'en gardais l'idée d'un large fleuve, bien plus considérable que ces Manzanares et Pisuerga qui ne sont que pisse de chat au jour au point l'été, souvenir bien ancré en moi puisque l'un des premiers qui me reviennent pour y avoir vu jadis naviguer Margot et le grand Don Juan d'Autriche. Hélas, quand j'arrivais enfin à ce qu'on me dit être la Meuse, je déchantais comme jamais chantre ne déchanta. En fait de fleuve, ce n'était qu'un gros ruisseau où les vaches s'abreuvaient. J'en étais gêné, d'autant que le frère Inigo, au tableau que je lui en avais fait, et en homme de ressources et de prévoyance qu'il était, s'était enquis des bateaux qu'il faudrait pour la traverser. C'est sans doute, se contenta-t-il placidement d'observer, qu'elle est encore bien près de sa source. Je n'aurais pas été plus honteux si j'en avais moi-même détourné les eaux pour quelque spéculation malhonnête. Le bourg d'Ivoix est lié à la terre de Chigny et par elle au duché de Luxembourg. C'est donc la première terre des Pays-Bas que l'on rencontre en venant de France, perdue comme une île dans ce royaume. Le village où j'arrivais bientôt et la collégiale qui en forme le principal attrait sont à la mesure de la Meuse qui passe tout près. Le pays est plaisant, tout orné de douces collines et de grands bois, mais le village lui-même est minuscule et son sanctuaire évoque plutôt la chapelle de quelque ermitage. Je me demandais d'où le chapitre du lieu pouvait nourrir ces chanoines dont j'étais par la bonté de Sa Majesté le roi Philippe. Quand je m'y fis connaître en mes noms et qualités, on me regarda comme si précisément je tombais de cette comète qu'on voyait encore un peu au ciel d'été. Manifestement, le nom de Dufond n'était pas connu du pauvre portier qui m'ouvrit, ni d'un religieux ou l'autre qu'on alla chercher à ses travaux. On m'accueillit bien cependant en me servant de la bière ainsi qu'aux frères Inigo et de l'avoine à nos pauvres mulets. Le soir cependant, le supérieur du lieu rentra et m'embrassa avec effusion une fois qu'il eut vérifié que mon nom était bien inscrit au rôle de son chapitre au titre de la prébende royale. « Ah, mon bien cher frère, excusez-nous, c'est bien la première fois que l'on nous vient ainsi. Comprenez, ce n'est pas l'usage. » « Ce n'est pas l'usage, cette excuse lui revenait sans cesse. On sentait bien qu'il s'inquiétait de cette visite. » Je m'attachai à le rassurer, à lui dire que j'étais là presque par hasard sur le chemin d'un long voyage. Je n'étais venu que par esprit chrétien et pure amitié rendre mes respects à un chapitre à qui je devais beaucoup. Lorsqu'il fut plus ou moins convaincu, après vêpres, il se montra plus curieux. Avec quelques-uns de mes confrères chanoines, il se livra à un vrai feu de questions qui eussent paru naïves à quiconque n'aurait connu comme eux d'autre horizon que celui de ce coin de l'Ardenne. J'y répondis avec la bonhomie d'un homme qui avait passé sa vie dans l'intimité des grands et avait été reçu à la cour de France pas plus tard que la semaine précédente. On me retint à toute force pour la messe du lendemain, qui était un dimanche, et comme j'étais musicien, on voulut me faire entendre toutes les ressources de l'endroit. L'office, chanté par les religieux et quelques gamins des environs, avait des audaces d'intonation à faire frémir les plus endurcis, mais la prière était sincère et je chantais de bon cœur avec eux. On me recommanda de passer à Orval, grande abbaye, qui n'était qu'à 4 lieues de là et à laquelle Notre-Dame d'Ivoix était fort liée. J'y fus le même jour et admirai fort cette maison dont l'ordre, celui des cisterciens, passe pour avoir les plus beaux domaines des Pays-Bas. Peu au-delà de Carignan, le pays devient plus vallonné et l'on entre dans la grande forêt d'Ardennes. C'est là la limite des Pays-Bas, quoique la frontière n'en soit pas clairement marquée. Je ne vis nulle borne plantée en terre, ni poste de garde au chemin, et il me fallut interroger les paysans pour savoir si tel village appartenait encore au royaume de France ou déjà au duché de Luxembourg. Même si le long voyage mené jusque-là sans désagrément m'avait affranchi des vaines angoisses qui en tenaillaient beaucoup en des lieux inconnus, je ne pouvais me départir d'une certaine inquiétude à l'épaisseur de ces bois où s'enfonçait notre chemin, étroit, creux et serpentant. Par cette voie peu courue, nous espérions rejoindre plus vite la route remontant à Namur par les bourgades de Bourrin et Bouvigne qu'on nous avait recommandées pour éviter les terres liégeoises. Mes appréhensions n'étaient pas vaines. Nous n'avions pas fait encore une lieue que nous tombions nez à nez avec deux brigands qui nous attendaient bien tranquillement au détour du chemin. Ils avaient dû nous entendre de loin tant je faisais tapage, menant seul une bruyante conversation qui me rassurait à défaut d'intéresser le frère Inigo. Les deux malandrins ne payaient pas de mine, sales, hirsutes et de penaillés. Le seul objet un tant peu remarquable en leur équipement était pour notre malheur une imposante arquebuse, souvenir sans doute d'une trop brève carrière sous les armes et dont la mèche allumée indiquait assez sûrement la fermeté des intentions de son propriétaire. Je pus deviner cependant que ces misérables avaient vocation à s'élever au-dessus de leurs conditions, à la façon qu'eut le plus petit de s'adresser à nous pour nous faire savoir, en un langage qu'il voulait distinguer, qu'il n'en voulait nullement à nos personnes, mais uniquement à nos biens. Nous étions d'ailleurs privés de faire étalage de ceux-ci, sans tenter une résistance qui eût privé la religion de deux de ses plus distingués serviteurs. Sans doute voulait-il suivre les brisées de ces détrousseurs de haut vol par qui c'est presque un plaisir de se faire dévaliser. Ses manières étaient somme toute plutôt rassurantes, d'autant que je pensais mon bagage peu à même d'intéresser ces messieurs et que l'argent qui me restait ne m'appartenait pas. Je m'apprêtais donc à les satisfaire et invitais mon compagnon à faire de même. Tout se passa alors en un clin d'œil. Faisant mine de vider ses fontes, le frère Inigo en sortit prestement deux lourds poignards. En un éclair, les deux lames partirent et se plantèrent dans la poitrine de nos voleurs. Le premier, plus proche de nous, tomba raide, sans un cri. L'autre eut le temps d'abattre la platine de la mèche de son arme, mais heureusement pas celui de viser, le coup partit dans les arbres. Je restais bouche bée. J'avais vu faire de tels coups dans les foires de Madrid, mais j'ignorais qu'ils fussent enseignés au noviciat des jésuites. Et tout en congratulant Inigo et en priant avec lui pour l'âme de ces malheureux, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il avait décidément bien des talents pour un simple muletier. Ces réflexions furent de courte durée, car un grand bruit de galopades s'approcha bientôt et un groupe de cavaliers surgit détaillé devant nous. « Hola, qui égorge-t-on ? » s'écria le premier arrivé, s'avançant, menaçant, sur un énorme étalon alezan. Nous avions affaire à une toute autre société, la forêt de l'Ardenne s'avérant décidément plus peuplée que prévu. C'était de riches gens, une chasse manifestement dont la compagnie grossissait au fur et à mesure qu'arrivaient des cavaliers moins rapides. Il ne fallait heureusement pas être grand clerc pour comprendre d'un coup d'œil ce qui venait de se passer. Ils dételèrent en riant. « Fichtre, pour des gens d'église, en voilà qui savent y faire !» s'écria le même gentilhomme. « Et en quel couvent apprendront des coups pareils? Chapeau bas, messieurs !» Et comme il venait de saluer, je le reconnus. C'était le comte de Berlaymont, le gentilhomme dont j'avais fait la connaissance une petite dizaine d'années plus tôt aux noces du roi Philippe. « Ça alors, fis-je, monsieur le comte, des auberges d'Aragon aux forêts d'Ardenne, la fortune a de curieux détours. Je suis bien aise de vous revoir. »« Comment, mon père, je vous connais ?»« Mais sans doute, s'il vous en souvient, je suis Jean Dufond, chantre de Sa Majesté d'Espagne, avec qui vous avez jadis passé quelques bonnes soirées. »« Ah, le seigneur de Namur, si je me souviens, viens donc, embrasse-moi. Ah, je le savais que tu deviendrais curé. » Les hommes du comte se mirent en devoir de dépouiller les bandits et de les pendre aux arbres pour l'exemple. Quant à Inigo, il avait récupéré ses poignards, les avait soigneusement nettoyés et remis dans ses fontes, comme il eût fait de son couteau de voyage après s'être taillé un morceau de saucisson. Berlaymont me prit par le bras avec des démonstrations de grande amitié. Les gens de noblesse sont décidément bien lunatiques. Celui-ci n'avait donné nul signe de vie quand je sollicitais les bien modestes secours qu'il avait promis pour les miens, et voici qu'à présent nous étions comme cul et chemise. « Quel est donc ce ratichon qui t'accompagne ?» me demanda-t-il. « Il a l'air d'oxyre son prochain aussi benoîtement que ses semblables débitent leur patenôtre. » « C'est un frère jésuite qu'on m'a donné pour escorte pendant le voyage. » Il fit la grimace. « Un jésuite, peste ! Avec ces gens-là, il ne faut s'étonner de rien. » Florent, comte de Berlaymont et seigneur de Floyon, devait avoir à cette époque 57 ou 58 ans. Le teint fleuri que je lui avais connu jadis était empourpré. Il avait le nez grumeleux et passablement violacé par lequel se marque à coup sûr l'amour immodéré du flacon et de la riche mangeaille. Il avait toujours été bavard, faisant les questions et les réponses, se confiant sans mesure. À cet égard du moins, l'âge ne l'avait pas changé. Je savais qu'il avait quitté le gouvernement de Namur pour celui de l'Artois, il m'apprit qu'il avait pour lors celui de Luxembourg. On est loin de tout, mais c'est le meilleur pays pour la chasse. D'ailleurs, j'en arrive à préférer la compagnie des bêtes à celle des hommes. Les gens qu'on trouve à Bruxelles me fatiguent. Cela fait enrager ma femme, elle se morfond dans ses campagnes et voudrait être toujours à la cour, mais cela lui est bon, elle me casse les pieds à longueur de journée. Ici au moins, quand elle me fait cocu, elle en est plus gênée que moi. Comme j'ai dit, il avait été veuf assez tôt d'une princesse d'Épinois et avait convolé avec cette femme beaucoup plus jeune que lui qui semblait mettre un point d'honneur à lui faire en tout regretter la première. Je n'allais pas tarder à faire sa connaissance dans le petit château des environs où le gouverneur et sa compagnie s'étaient quelque temps installés pour chasser plus commodément. Inigo semblait intrigué par ma familiarité avec ce grand personnage, d'autant que, quand il faisait mine de s'approcher, le comte baissait le ton. Il m'ennuie, ton jésuite, avec ses airs de furet. Ne peux-tu pas donc l'envoyer lancer ses poignards ailleurs ? Au château, Berlaymont me présenta à sa femme. Elle avait nom Marguerite de Lalain et avait mon âge à peu de choses près, l'âge où chez les femmes, les ans commencent à se marquer, quoi qu'elles fassent. Elle était cependant toujours d'une grande beauté. Elle me fit penser à une chatoise, ces grands félins des Indes qu'on voit sur les atlas. Elle en avait les yeux verts, qu'elle promenait sur les gens avec un air de moquerie, qui laissait parfois comme une idée de cruauté. Dès qu'elle me regarda, me donnant du « Soyez le bienvenu, mon révérend », comme elle eut dit « Blaise, va me chercher mes bottes », je me fis l'impression d'être une sorte de souris, comme elle devait en croquer deux ou trois chaque matin pour son déjeuner. « Ne te laisse pas prendre à ces simagrées, me dit le comte en m'emmenant suffisamment haut pour qu'elle l'entendît. Il me confia que lui-même s'y était laissé prendre, qu'il ne s'était pas depuis passé un seul jour sans qu'il ne l'eût regretté, et que, vu son âge, il n'avait même plus l'espérance consolatrice de l'enterrer un jour. Avec des airs de conspirateur, il m'entretint alors longuement des affaires publiques, où il semblait nourrir des opinions assez confuses, mais plutôt hostiles aux archiducs. Je compris qu'il n'était pas trop bien en cour et qu'il s'en vengeait en marquant de l'amitié pour la France et certains princes de l'Empire hostiles à l'Espagne. Cela me faisait un peu l'impression d'une rancune d'enfant gâté. Je ne savais quel tour concret pouvaient prendre ces manigances. Elles étaient bien bénignes sans doute, car je n'imaginais pas qu'un homme comme lui pût sérieusement conspirer. En tout cas, il voyait des ennemis partout, tous voulaient sa perte. Le pire, c'est ma femme. Elle me fait passer pour une sorte d'hérétique, tandis qu'elle joue la rigoriste en matière de religion, ce qui est une belle preuve de culot vu la vie qu'elle mène. Elle est toujours fourrée ici avec l'abbé d'Orval, Bernard de Montgaillard. C'est un Français, mais ennemi de son roi, une sorte de fanatique, jadis un des ligueurs les plus exaltés. Les moines n'en voulaient pas, mais le gouvernement le leur a imposé. Il s'emportait, se montait la tête à ses propres paroles. « Qui sont-ils pour me critiquer, pour décrier ma fidélité au prince? Mes trois frères sont morts pour l'Espagne. Peuvent-ils en dire autant, tous autant qu'ils sont? Catholique, je le suis, comme eux, même si je n'estime pas nécessaire d'aller forer le crâne des chrétiens pour savoir s'ils ont les articles de la foi bien accrochés au cerveau. Allons, l'abbé, tu te moques de cela, tu as bien raison. Viens, allons plutôt goûter la bière que brassent les moines d'ici. C'est un nectar et ce maudit Montgaillard n'a pas réussi à en gâcher le goût. Tu n'as pas ça en Espagne et cela nous rappellera le bon vieux temps. » Et en buvant cette bière d'Orval, qui est d'une saveur fort curieuse, je me disais que les choses de la religion étaient décidément fameuses sources de brouillerie quand elles auraient dû être motif de concorde et d'amour du prochain. Si je partageais plutôt l'opinion de Berlaymont dans ce qu'il venait d'en dire, le souvenir de certaines choses m'incitait cependant à garder bouche cousue. Le soir, le frère Inigo était assis aux côtés de la comtesse qui semblait lui faire grande amitié. Sans doute avait-il de la brouillerie conjugale un autre son de cloche, et s'il venait d'une clarine plutôt que d'un bourdon, le carillon n'en devait pas moins brimballer. Florent de Berlaymont voulut me garder quelques jours dans sa campagne. Je n'y tenais pas trop. Parmi ces gens, tout à leurs intrigues, leur haine et sourde menée, je me sentais rattrapé par ce climat de soupçons, par cette peur qui m'avait tenaillé avant mon départ et que le voyage m'avait fait oublier. Une autre chose me décida à partir. La seconde nuit que je passai en ce château, la porte de ma chambre s'ouvrit, et je vis une sorte de fantôme se glisser vers mon lit. C'était la comtesse. Elle m'avait au souper lancé de longs regards que je n'avais pu soutenir au-delà de quelques instants. Je regardais ailleurs, parlant longuement au comte, feignant de ne pas prêter attention à elle, pensant qu'elle me laisserait en paix, mais je devinais qu'elle continuait à me fixer, et de fait, dès que je tournais les yeux vers elle, je rencontrais les siens, verts et moqueurs. Je me faisais l'effet d'être une sorte d'insecte habilement enveloppé dans la toile de l'araignée. Que venait-elle faire, ou pourquoi, plutôt, venait-elle faire ce que manifestement elle projetait à ce lieu et en cette heure? Je ne me suis jamais fait d'illusion sur mon pouvoir de séduction, et je ne pensais pas que les charmes du prêtre chauve et grassouillé que j'étais pussent élever chez elle l'ombre d'une passion adultérine. Non, si elle était là, c'était sans doute pour me compromettre, pour mieux coquifier son mari en choisissant son ami, pour mieux consommer son déshonneur. Aussi par perversion sans doute, mais que pouvais-je faire? Je n'allais pas pousser des cris de vierve effarouchée. D'ailleurs, Je n'en avais nulle envie, et si je ne dormais pas encore à cette heure, c'était précisément à cause d'elle et de l'émotion où m'avaient mis ses manières. Elle me posa la main sur la bouche, me signifiant ainsi clairement qu'elle ne voulait pas m'entendre. Cela tombait bien, je ne savais que dire. C'est elle qui me fit la chose plutôt que l'inverse, tant j'étais gêné. Jamais en ma vie je n'eus de partenaire plus somptueuse, jamais non plus je ne fus si maladroit, pas même sans doute en ce jour de 1593 où je perdus mon pucelage dans les puterias de Madrid. Je bénissais ma soutane qui, du moins, pouvait expliquer une niaiserie dont la vraie cause ce n'était que l'impression que me faisait cette femme. Elle s'en alla sans mot dire, sitôt que j'eus rendu les armes, ce qui ne tarda guère. Elle n'avait pas encore franchi la porte que le dégoût me saisissait. Honte de moi-même et de ma piètre besogne, sentiment de n'avoir été qu'un de ces objets monstrueux que laissent à leur femme, dit-on, les voyageurs longtemps partis. Gêne d'avoir trahi mon hôte, moins en lui prenant sa femme qu'en me livrant à son ennemi. Je m'endormis néanmoins comme une masse et fis des rêves à la fois troublants et effrayants. Quand je fis part de mon intention de reprendre la route, cette rouée de Marguerite de Lalain prit des airs de grande et chrétienne amitié. « Mon père, avant de vous en aller, vous nous direz bien la messe. D'ordinaire, monsieur le comte, mon mari, prise peu les saints hommes qui nous viennent d'Espagne, mais comme vous êtes son ami, il fera exception, et vous ne pourrez nous refuser cette faveur. » Je ne pouvais esquiver l'invitation, qui ne me gênait guère. Ce qui me troubla davantage, ce fut de sentir son regard planté dans mon dos pendant tout l'office, et sa langue sur mon doigt, quand je lui donnai la communion, car elle avança à la sainte table avec autant d'innocence que si elle sortait du confessionnal. Nous repartîmes donc au pas de nos bons mulets castillans, après grandes embrassades et promesses de retrouvailles au retour. Le frère Inigo semblait un peu narquois. Selon ma mauvaise habitude, je tâchais de dissiper cette ironie par un flot de paroles, disant grand bien de Berlaymont, que je devais effectivement revoir, mais pas vraiment dans les circonstances prévues.